Donc on va enchaîner avec une deuxième table ronde qui a pour titre prospective nucléaire, bouleversement climatique, quel futur ? Donc, je ne vous garantis pas qu'on a la réponse, mais on va quand même s'y atteler. Donc moi je suis... Ah pardon, je te cache.
Vas-y.
Je suis Sophie Attali et je suis membre de Global Chance depuis très longtemps. Secrétaire depuis quelques années, mais je ne fais vraiment pas grand-chose et je voudrais remercier Edgar, où est-ce qu'il est, parce que c'est il et Mathieu qui ont été vraiment les chevilles ouvrières de ce colloque. On les remercie tous. Et donc moi, je ne viens pas du tout de la sphère académique parce que j'ai commencé à travailler en fait avec Bernard Lapon. Je venais d'être diplômée en sciences politiques, mais je n'ai pas fait de thèse et rien. Et c'était vraiment une grande chance et je vraiment vous remercie parce qu'on a passé 10 années géniales. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ce que ça veut dire quand on a une vingtaine d'années de commencer à travailler avec Bernard, avec Michel Colombier, avec José Lopez. C'était vraiment, c'était intense, mais c'était très joyeux. Et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai eu la chance aussi de croiser Benjamin, pas très souvent, de me faire engueuler par lui quand même. Et après aussi d'avoir des signes tout à fait intéressants de contribution, d'aide, etc. Donc c'était vraiment super. Et aujourd'hui, je suis consultante et je travaille plutôt dans la maîtrise de la demande d'électricité. Donc je ne m'occupe pas tellement de nucléaire de manière directe, on va dire. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis absolument sidérée du contexte actuel où on nous promet et on voit qu'il y a une explosion des usages de l'électricité absolument incroyable, quoi, et les budgets en face pour faire quelque chose de sérieux et quelque chose de facile. Parce que moi, je travaille en plus sur l'électroménager, l'électronique, des choses comme ça. Il y a des réglementations, on pourrait faire des tas de choses, ça ne coûte pas très cher. Il y a des économies incroyables à en tirer et il ne se passe rien. Donc moi, je suis presque plus frustrée maintenant qu'au début, parce que maintenant, dans le discours, on entend des choses positives, et puis la réalité, c'est vraiment catastrophique. Ceci étant dit, je suis très bien entourée aujourd'hui, je vous remercie, car pour cette table ronde, nous avons Marie-Angèle Lhermitte, qui est là, Tad Lingard, pardon, et Laurence Tubiana, qui vont nous parler un petit peu de sujets différents. Donc avec Madame Lhermitte, nous allons parler de méthodes, et de méthodologie. Vous êtes directeur de recherche honoraire. Vous étiez, c'est marqué encore votre signature, honoraire, c'est toujours valable.
Oui.
Voilà.
Oui.
Vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS et aussi directeur d'études honoraires à l'EHESS. Vous êtes juriste et vous intervenez sur des questions de droit des entités naturelles. Et vous avez nous souhaité parler de méthodes et plus précisément de comment vous avez utilisé et enrichi dans vos propres travaux la méthode développée en partie par Benjamin dans le cadre du rapport Charpin dessus Pala. Alors je vous donne la parole.
Très bien, merci. Alors évidemment, moi je ne vais pas du tout pouvoir faire de prospective dans le domaine du nucléaire parce que ce n'est pas un domaine dans lequel je travaille suffisamment souvent. Et je vais simplement rappeler quelques souvenirs très vivaces pour moi des périodes où j'ai coopéré avec Benjamin et avec Bernard. Alors, le point de départ, c'est vraiment le rapport Charpin de Supela avec ce que vous connaissez tous, j'imagine, donc le jeu de rôle, un pro, un anti et un arbitre neutre dans le ciel avec une vue large. Et cette nécessité de ne pas aborder, c'est ce que m'avait dit Benjamin après, la question de la neutralité. On met de côté la question de la neutralité, de l'objectivité, on évite de l'aborder de front en déplaçant vers une méthode des scénarios qui permet finalement de discuter point par point et donc d'éviter de se confronter dès le départ sur les questions qui fâchent. Et ce que je retiens plus particulièrement, c'est la question des faits, entre cette séparation entre les faits partagés et les faits discutés. Donc, fait partagé, ça veut dire que deux personnes qui sont d'avis complètement différents vont quand même partager un certain nombre de points, et ça, moi, je m'en servirai beaucoup par la suite. Et donc, ils peuvent même ensemble aborder et évoquer devant un public les points partagés et après se séparer sur les points discutés. Alors, vous savez tous que, côté politique, la destination de ce rapport, qui était pourtant assez extraordinaire, ça a été le tiroir. Et d'ailleurs, si dans les questions, on veut me poser une question sur la destination générale des rapports, je serais tout à fait enthousiaste. Alors, pour moi, c'est une découverte progressive, cette méthodologie des rapports, parce que entre 83 et 96, moi, dans mes recherches, je me confronte à l'affaire de la transfusion sanguine, aux OGM et au début du droit de la bioéthique. Donc, trois secteurs complètement différents. C'est ce que j'appelle, moi, le droit des sciences et des techniques, mais qui sont des secteurs extrêmement discutés. Et j'en tire un article, avant de connaître Benjamin, j'en tire un article en 97 que j'appelle « L'expertise à finalité de décision politique ». Pourquoi ? Parce que les juristes, nous connaissons l'expertise judiciaire, mais on n'avait pas de vue sur toutes ces expertises qui précèdent les décisions politiques. Et je retiens un principe du contradictoire, à l'époque en référence à Philippe Roqueplot. Mais si l'idée du contradictoire, de l'exposé contradictoire était là, bon, les juristes y sont très habitués, évidemment, la méthode de mise en œuvre du contradictoire dans des processus d'expertise, ça me paraissait à ce moment-là extrêmement flou. Et je ne connaissais pas la charte de Global Chance avec son expertise multiple et contradictoire. Mais je tiens à souligner devant vous que ce sera consacré sur le plan législatif bien plus tard par la loi Bertrand sur la sécurité sanitaire, loi de 2011, qui comporte un article, article L1452.1 du Code de la santé publique, l'expertise sanitaire répond au principe d'impartialité, de transparence, de pluralité et du contradictoire. Donc pluralité et contradictoire, c'est consacré par la loi. Et je peux vous dire que c'est très difficile à faire comprendre dans une agence comme l'ANSES, parce que pluralité, ils voyaient ça comme la pluridisciplinarité. Et quand j'étais au comité de déontologie, j'ai dit non, c'est le pluralisme des opinions. Et c'était extrêmement difficile et pas très bien admis, parce qu'il n'y a pas d'opinion en science, bien sûr, comme chacun sait. Et le contradictoire, alors là, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Donc, il a fallu faire toute une série d'avis sur le contradictoire, entre autres. Alors, moi, je vais commencer à appliquer ça dans la première conférence de citoyens 97-98 sur les OGM, avec un premier début de mise en œuvre. Dans le comité de pilotage, on était vraiment partagé de manière pluraliste, même si, côté scientifique sur les OGM, j'étais la seule réputée anti-OGM et j'avais quand même trois scientifiques qui faisaient des OGM toute la journée. Donc c'était 1-3, c'était pas 2-2. Ensuite, nous avons, Philippe Roqueplot et moi, doté les experts d'une lettre méthodologique très rigoureuse en leur expliquant les faits partagés, l'énoncé des consensus, la pluralité des hypothèses et des positions, etc. Et ça a été un échec total parce que il y avait des experts déboussolés qui étaient les mains comme ça et qui n'osaient plus parler parce qu'ils avaient peur de plus être neutres. Et il y avait des experts désobéissants qui disaient tout le bien qu'ils pensaient des OGM ou tout le mal qu'ils pensaient des OGM. Donc c'était un ratage absolu. Alors, on réapplique ça dans une deuxième conférence de citoyens en 2002, sur changement climatique et citoyenneté, organisé par la Commission française du développement durable, qui était à l'époque présidée par Jacques Testard. Et là, dans le comité de pilotage, Benjamin Dessus et Jean-Marc Jancovici. Donc là, c'était intéressant. Sauf que ils ont décidé ensemble, tous les deux, de ne pas inclure la question nucléaire dans la question changement climatique. Et le comité de pilotage les a suivis, puisque c'est eux qui savaient, et moi, je n'avais pas de perception très claire de la question. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un des citoyens qui avait été un ouvrier dans une centrale nucléaire. Et il a réintroduit la question du nucléaire, sur lequel il n'y avait pas eu de formation, évidemment. Mais il l'a réintroduit dans le troisième week-end, celui de débat, où il a fait venir, j'ai oublié qui maintenant, et ils ont conclu en faisant du nucléaire une énergie de transition. 2002, hein. Donc, nous, citoyens, à la lumière des données scientifiques actuelles, sommes convaincus que c'est notre mode de vie qui génère une quantité de gaz à effet de serre, etc. Les points importants, c'est l'habitat, l'indemnisation des catastrophes naturelles par les assureurs, on est en plein dedans, responsabilité historique des pays du Nord avec nécessité d'un transfert de technologie, régulation du trafic aérien, etc., et un petit clin d'œil à la taxe Tobin par certains d'entre eux. Dans leurs recommandations, ils listent tous les dangers de l'énergie nucléaire et ils ont une très belle conclusion, je trouve, en la relisant. Le citoyen n'est pas un intermittent de la vie politique, mais l'acteur à part entière de son devenir. De même que les changements climatiques ne connaissent pas de frontières, la citoyenneté peut être le vecteur d'une solidarité universelle, seul comportement rationnel et responsable face à un choix crucial. On est en 2002. Soit nous continuons dans la voie actuelle d'une croissance économique forte et nous sacrifions les générations futures, soit nous modifions radicalement nos comportements et nous garantissons un développement durable de notre planète. 2002. Je reprends la même méthodologie en 2013-2014 sur la question de Bure. Vous savez qu'il devait y avoir légalement le débat à la Commission nationale du débat public, que ce débat ne peut pas avoir lieu parce que tout le monde s'en va, tout le monde crie, etc. Et on m'appelle en me disant ben, « si vous vouliez organiser une conférence de citoyens, ce serait bien ». Alors je dis « oui, mais à condition que vous me viriez ta-ta-ta et qu'on applique ma méthodologie, en fait la méthodologie que j'améliore tout le temps depuis le rapport des trois. des trois. Et je demande à Benjamin et à Bernard de faire partie du comité de pilotage. Et là, ils me refusent. En me disant, ah ben non, parce que si on est dans le comité de pilotage, effectivement, ils ont raison, on ne peut pas être expert formateur. Or, on préfère être expert formateur plutôt que dans le COPID. Donc, on finit par trouver une solution. Côté fonds, on a François Besnius et Bernd Grambeau pour Bure, et on a Jean-Marie Brome et Andreas Rudinger contre Bure. Et... j'essaye d'appliquer vraiment de manière radicale la question du contradictoire dans la formation des deux week-ends. Alors, pourquoi je dis de manière radicale ? C'est parce que, en général, quand on fait venir un expert pour et un expert contre, on fait parler l'un avec les questions, puis il s'en va, et puis on fait parler l'autre les questions, et il s'en va. Et là, je dis non, on va les mettre tous les deux à la même table. Je vais les obliger, ce qui n'a pas été toujours simple, à ceux qui se parlent avant et à ceux qui décident des faits partagés qui vont être exposés par une seule personne, mais devant l'autre. Donc, il ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, on a fonctionné comme ça avec, je trouve, il y a eu quelques grands moments, entre autres sur le transport des déchets radioactifs où... Bernard Monod d'Areva se trouve devant un cheminot de Sudrail, et alors le type d'Areva avec ses chiffres, ses machins, ses wagons, ses trucs, et le type de Sudrail qui lui dit bah oui, mais vous savez, la nuit quand il fait froid, les cheminots ils se mettent contre les wagons parce que c'est chaud. Et là, franchement, il n'avait pas de réponse, donc il y a plein de choses dans la recommandation des citoyens sur les transports, comment ils doivent être faits, etc. Alors, il ne faut pas nier les échecs importants. Il y en a eu. Le principal échec, ça a été sur le choix géologique de l'argile à Bure. Pourquoi ? Parce que dans les délais impartis, qui sont toujours trop courts pour organiser une conférence de citoyens, j'avais ma pro qui était Sarah Devonc de l'ANDRA, mais ça a été totalement impossible de trouver un anti-argile de bon niveau, disons, géologue, etc., qui soit à la fois volontaire et sans lien d'intérêt, parce que tous les géologues travaillent soit avec l'ANDRA, soit avec, etc., etc. Donc, on s'est retrouvé finalement avec un universitaire suisse qui est resté flou neutre. Personne n'a vraiment compris ce qu'il voulait dire. Et en tout cas, c'était un échec. Avec quelques moments charnières. Au cours de la formation, il y a une citoyenne qui s'adresse très énervée à Bernard et qui lui dit « vous critiquez, mais les déchets, ils sont là, il faut en faire quelque chose ». Et alors là, je vois Bernard hésiter, puis dire ben, « si on faisait un pilote industriel, par exemple ». Et alors, c'est repris dans la recommandation, c'est entériné par le conseil d'administration de l'ANDRA, et ça a été retenu aujourd'hui par le conseil constitutionnel comme un élément des droits des générations futures. Alors, beaucoup de gens font une erreur sur l'interprétation de cette décision du Conseil constitutionnel. Elle n'a pas entériné Bure, elle a entériné le système juridique qui entoure Bure, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, à mon avis, des questions prioritaires de constitutionnalité, il y en aura d'autres. Alors, Le panel repère tous les manques, les insuffisances et les insatisfactions qu'ils trouvaient liées à la formation qu'on leur proposait. Et ils ont donc construit leur troisième week-end de débat public en fonction de ce qu'on avait, nous, mal fait. Principalement les questions de santé. Et il recommande de faire une grande banque de données sur les questions de santé, santé publique humaine, en y incluant la faune et la flore. Et donc, je trouve que ça, c'était assez intéressant, et ça aurait dû être lié au registre des cancers locaux. Alors, ils disent que les coûts et les financements, on ne peut pas prendre parti dessus parce que ce n'est pas sérieux. Ils disent que les alternatives ne sont pas suffisamment regardées. Et ils s'étonnent que la presse ait si peu d'intérêt pour Cigéo. Et donc, ils vont faire venir, et je crois que vous étiez là, ils vont faire venir des journalistes pour leur troisième week-end de débat. Et ils insistent aussi sur le manque d'indépendance, généralement, de l'expertise. Alors, dans leurs recommandations, ce que j'ai trouvé intéressant, ils disent « on n'est pas a priori hostile à Cigéo, mais franchement, il n'y a pas d'urgence. Et on n'est pas hostile aux conditions que le temps soit pris pour la réalisation de tests en conditions réelles et grandeur nature, que ceci puisse fournir des résultats satisfaisants. Il faut le mettre à Bure. Notamment pour répondre aux questions que nous développons dans cet avis autour des risques et de la récupérabilité des colis, parce que leur grand souci, c'est qu'ils trouvent qu'on ne fait pas assez attention à la récupérabilité des colis, qui est une condition pour que ce soit acceptable. Et alors, je trouve qu'ils ont une phrase extrêmement intéressante. « Nous avons reçu une formation intensive, contradictoire et pluraliste, suivi d'une audition contradictoire sur des thèmes que nous avions choisis avec des invités de notre choix et certaines de nos questions sont restées sans réponse. » Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que cette phrase, c'est un moment de bascule où ils montrent qu'ils se sont emparés de la question. Donc, ce sont les thèmes que nous avions choisis avec des invités de notre choix et nos questions. C'est-à-dire, c'est le moment où, après deux week-ends de formation, un week-end de débat, c'est eux qui prennent les commandes. C'est eux qui prennent les commandes, d'ailleurs, du week-end de débat. Hein. C'est eux qui président, qui posent les questions, etc. Et c'est ce qui montre que, finalement, en 3 week-ends, même si, à mon avis, sur ce sujet-là, il en aurait fallu 4, mais on n'avait pas le temps, on peut avoir une formation extrêmement serrée. Alors que je peux vous dire que le premier jour, quand les experts ont commencé à évoquer la dangerosité du plutonium, il y a une dame qui a beaucoup réfléchi et qui a dit ben, « si on a trop de plutonium, pourquoi on ne le revend pas pour ceux qui veulent faire des bombes atomiques ?» Donc, on était quand même parti de loin.
C'est pas idiot.
Voilà. Mais c'est pas idiot, mais voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est comment, à partir de ce que j'avais perçu du rapport, j'ai pu construire, alors, bonne ou mauvaise, ça, c'est pas moi qui peut en juger, mais j'ai pu construire toute une méthodologie que j'ai principalement appliquée, alors, dans beaucoup de circonstances, mais entre autres, aux conférences de citoyens dont j'ai assuré tout ou partie du comité de pilotage. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, c'était très intéressant. On souhaite que vous en animiez d'autres très bientôt.
On m'a dit vous êtes un ayatollah du contradictoire.
Ah, c'est un compliment.
Pas pour tout le monde. En tout cas, je n'ai plus une demande après.
Aïe. Bon, alors nous allons passer à notre deuxième invitée, donc Jade Lingard, vous êtes journaliste à Mediapart,
oui.
Vous êtes responsable du pôle écologie, et peut-être on va commencer par une petite anecdote plus personnelle sur votre rencontre avec Benjamin et Bernard, peut-être.
Mais oui, oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez ? Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette journée parce que voilà, on entend déjà des choses passionnantes. Enfin, ce que vous venez de dire, franchement, à Marie-Ange Lhermitte, c'est passionnant, c'est important. Et par ailleurs, ça me permet de revoir plein de personnes que j'ai pas vues depuis longtemps. Parce qu'il se trouve que, effectivement, en 2011, l'année de l'accident de Fukushima, c'est là que moi que j'ai commencé. J'étais déjà à Mediapart. Mediapart avait déjà été créé. Et je travaillais déjà à Mediapart, mais je n'avais jamais travaillé sur le nucléaire. Je travaillais plutôt sur le climat. Et donc, il se trouve qu'un jour, je ne sais pas si Bernard, tu te souviens, mais un jour, j'ai reçu, j'étais en congé maternité, et j'ai reçu un appel de Bernard, très courtois, que je ne connaissais pas, que j'avais entendu dans l'émission de Rod Stagassi, donc tout est finalement assez bien relié, et qui m'appelait très gentiment en me disant, écoutez, bon, très bien, Mediapart, l'écologie, formidable, peut-être commencer à vous intéresser au nucléaire. Et je me souviens de lui avoir dit... Mais oui, je sais, mais bon, j'y connais rien, voilà. Et il m'a, avec sa courtoisie légendaire, dit « Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que vous seriez disponible pour prendre un café ?» Et c'est ainsi que, quand j'ai repris quand j'ai repris mon travail, j'ai commencé à venir le voir, et c'est grâce à Bernard. Et chez Bernard, je suis quasiment sûre que j'ai rencontré Benjamin. Et a commencé une relation entre nous qui a été, pour moi, hyper importante. C'est pour ça aussi que je voulais venir ce matin et que je voulais le partager avec vous, parce que ça a été vraiment, pour moi, un moment de formation aux questions du nucléaire, de transmission. Et de transmission dans le sens plein du terme, c'est-à-dire il y avait la dimension technique... c'est quoi une centrale nucléaire? C'est quoi un réacteur? Comment ça fonctionne? Ça veut dire quoi la sûreté nucléaire? C'est quoi la radioactivité? Il y avait ça. Mais en fait, je dirais que de manière plus fondamentale, ce qu'ils m'ont transmis tous les deux, c'est le fait de ne pas avoir peur de s'intéresser au nucléaire depuis l'extérieur. C'est vraiment de dire, mais le nucléaire ne doit pas être... Oui, c'est un objet technique. Très compliqué, et comme je crois que c'est Cézine tout à l'heure qui disait, qui parlait de cet objet nucléaire, il est impressionnant, il est intimidant, Il peut même faire peur, parce que bien sûr, toutes les questions que ça pose en termes de pollution, de risque, la durée des contaminations radioactives, c'est très effrayant. Et c'est vrai que toutes ces raisons font que quand on est, j'imagine quand on est citoyenne, citoyen lambda, mais aussi quand on est journaliste, en fait, c'est plein d'obstacles, en fait, à venir au nucléaire quand on n'a pas soi-même reçu une éducation scientifique. Formation scientifique, ce qui est mon cas. Et donc, ils m'ont vraiment... Moi, j'ai le sentiment, quand je réfléchis à cette période de rendez-vous très régulier, ils m'ont vraiment accompagnée, vers l'interrogation sur cette énergie. Pourquoi est-ce qu'elle soulève des problèmes? Et pourquoi est-ce que c'est une question démocratique? Pourquoi c'est une question sociale? Pourquoi c'est une question politique? Et je dois dire, sans jamais... C'est là où ils sont quand même... Ils ont été tous les deux d'une très grande liberté d'esprit, sans jamais dire « il faut que tu dises ça » ou « c'est ça la bonne manière de voir ». Je veux dire, cette transmission était une transmission de réflexion, d'interrogation, de curiosité. Comme plusieurs personnes m'ont dit depuis ce matin, aussi parfois je me faisais engueuler. « Non mais comment t'as pu écrire ça? Mais ça c'est n'importe quoi. Mais ça t'as toujours pas compris. » Mais de manière, je dirais, que tout à fait, encore une fois, bienveillante en réalité, et qui était une exigence, en fait, qui est une exigence et qui est importante. Et moi je dois dire que j'ai cette relation-là, donc professionnelle, qui est devenue amicale, qui est à dimension comme ça, pédagogique, de transmission, encore une fois, je l'ai connue avec personne d'autre. Et pourtant, Dieu sait que je rencontre beaucoup de monde dans mon travail et qu'il y a beaucoup de personnes qui m'apportent il y a beaucoup de personnes qui sont très importantes dans le travail de Mediapart et dans le mien en particulier, de transmission, de questions techniques ou de problématiques. Et je mets de côté le rôle des sources, qui sont évidemment fondamentales dans notre métier, des sources d'information. Mais vraiment, cette relation-là, presque un peu de partenariat amical qu'on a tissé, a été est unique. Bon, en tout cas, dans tout l'entourage que je peux avoir. Merci beaucoup pour ça, messieurs.
Alors maintenant arrive la question, on va voir si la transmission...
C'est ça, a marché.
Donc puisque vous travaillez maintenant très régulièrement sur ces sujets, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire sur la solution qu'on nous présente comme centrale aujourd'hui française, de se concentrer sur le nucléaire alors même qu'on fait face à la crise climatique actuellement, quoi.
Oui, alors, il y a plein de choses ici que les gens connaissent. En plus, il y a cette table ronde cet après-midi, je pense, notamment avec Hélène, qui va aborder ces questions. Je me suis permis de prendre la chose un peu de biais. J'espère que je ne suis pas complètement hors sujet, mais ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, c'est vraiment en tant que journaliste. Et en tant que journaliste qui travaille sur ces sujets, donc c'est vrai que j'ai travaillé pas mal sur le nucléaire. Après, j'ai arrêté parce qu'il se trouve, j'ai quasiment arrêté pendant quelques années aussi, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais la seule journaliste sur l'écologie à Mediapart, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, j'étais, en fait, comme tout un chacun, en fait, confrontée à des arbitrages de sujets. Et puis, notre travail à nous, c'est d'apporter des informations, mais d'essayer aussi de fournir, en fait, des formes de récits, en fait, à une société à un moment. Et on est obligé, de ce point de vue-là, d'être pluriel. Et ce que vous disiez, moi, je suis très sensible à ça, à pluralité des sujets, pluralité des points de vue. Donc, bref, ça m'a conduit à voyager, je dirais, dans différentes thématiques. Aujourd'hui, je reviens, là, vraiment très fortement... au nucléaire, compte tenu des décisions qui sont celles qui ont été présentées auparavant, c'est-à-dire cette décision de relance quand même du nucléaire qui malgré tout à la fois s'inscrit dans un historique mais en même temps français, mais en même temps est quand même a quand même été un peu surprenante par sa rapidité, et puis cette dimension comme ça, fermée, autoritaire, décidée, fait du prince et tout. Et par rapport à ça, nous en tant que journalistes, en fait, moi je trouve, en tout cas à Mediapart, c'est comme ça que je me présente les choses, on a la nécessité de travailler autrement. Autrement sur le sujet du nucléaire que la manière dont on a pu commencer à travailler en 2011. Ce que je veux dire, c'est que 2011, on était dans le contexte de l'accident de Fukushima. Il y avait d'un coup, du fait de ce drame pour le Japon, du fait de ce drame, il y avait déjà une audience disponible et prête à entendre beaucoup de choses très critiques du nucléaire. Il y avait une frontalité et presque quelque chose qui peut ressembler à une forme de binarité. On était pour ou contre. il y avait quelque chose de très frontal. Et finalement, nous, on s'est un peu inscrit là-dedans, nous, Mediapart, journalistiquement, c'est-à-dire, on a beaucoup, à l'époque, travaillé sur la sûreté, les problèmes de sûreté, mais du coup, on s'autorisait, du fait de ce contexte, on s'est autorisé à l'époque à publier des articles finalement assez techniques. Telle fuite dans telle centrale nucléaire, avec l'idée que c'était finalement audible, parce que dans ce contexte qui crée une telle inquiétude et qui était partagée par beaucoup de monde sur cette technologie. Et on a aussi beaucoup travaillé sur les mobilisations, le mouvement de Bure notamment, dont il y a des éminentes activistes qui sont présentes dans cette salle, mais voilà, donc on a beaucoup fait ça. Aujourd'hui, et évidemment, on va continuer à couvrir les mouvements, ça c'est pour nous une source, enfin, c'est un fait social important et une source d'information importante d'un point de vue environnemental et démocratique. Donc on va bien sûr continuer à travailler sur les mouvements anti-nucléaires. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'en revanche, sur le système nucléaire, moi, ma réflexion à ce stade, c'est qu'il faut faire un peu différemment et le prendre de manière justement moins frontale, à la fois moins frontale et à la fois plus systémique. C'est-à-dire se dire, puisqu'on est à un moment de société où il y a eu une forme de capture de la question climatique par l'industrie du nucléaire et par les dirigeants politiques qui veulent s'appuyer sur le nucléaire, c'est à cette chose-là qu'il faut alors, s'attaquer quand on est anti-nucléaire, mais je veux dire, en tout cas, quand on est observatrice, observateur de ça, essayer de démêler, se confronter à cette capture-là, et qu'une manière de le faire, c'est en faisant, je me disais finalement, quelque part, comme un pas de côté, c'est-à-dire dézoomer un petit peu, c'est-à-dire s'éloigner de l'usine nucléaire, s'éloigner du réacteur, pour regarder l'impact de ces centrales sur les écosystèmes et inversement, l'impact du changement climatique sur ces centrales, la question des pollutions liées à cette activité des centrales nucléaires, la question des contaminations radioactives, bien évidemment la question des déchets, mais il me semble qu'on est dans ce moment-là où cette forme de capture, je sais que Francis Chateau-Renaud, je crois, il parle de climatisation du nucléaire, ce que je trouve une formule très intéressante et à mon avis qui décrit bien ce truc-là. Oui. Ça oblige en fait à travailler un peu différemment, comme je disais, et ça oblige aussi à penser au même niveau d'échelle, c'est-à-dire se dire que si cette industrie du nucléaire, pour plein de raisons en France qui sont à la fois liées à la lenteur de la mise en place des politiques de réduction des gaz à effet de serre, je pense à ce que fortement à une forme de fierté nationale, une forme de patriotisme industriel que Gabrielle Hecht, qui a été citée ce matin, l'historienne états-unienne, a vraiment bien attrapé par son expression de rayonnement français. Enfin, il y a quelque chose un peu d'identitaire et de presque nationaliste qui se joue dans le rapport à cette technologie qui, quand même, moi, je pense à une des explications de ce qui est en train de se passer, l'opposition aux énergies renouvelables. Enfin, on a eu là en 10 ans en fait un faisceau en fait de raisons qui font qu'aujourd'hui ce soit possible pour un pouvoir comme est le nôtre de décider cette relance du nucléaire. Décision qui sera-t-elle vraiment suivie des faits? Ça reste quand même une question ouverte. Et à mon avis, ce sera abordé cet après-midi. Mais en tout cas, si j'en reste au niveau du discours et du récit, c'est ça qui nous est présenté. Mais que du coup, par rapport à ça, si on travaille sur le nucléaire, quelque part, il faut être au même niveau de force de récit et donc au même niveau de force d'interrogation. Et c'est pourquoi ça, c'est donc à la fois des réflexions de journalistes, des interrogations de journalistes, mais j'imagine... C'est aussi des réflexions communes avec Global Chance et l'équipe de Global Chance, de la recherche, des experts. Et c'est vrai que, et pour terminer là-dessus, pas parler trop longtemps, moi, je me dis, une des raisons pour lesquelles j'ai eu tellement d'utilité à lire Global Chance et à discuter avec Benjamin et Bernard, et j'ai encore tous les Global Chance au journal à côté de mon bureau, même si maintenant, bon, les choses sont plus... Enfin, tout est en ligne, quoi, quasiment, mais j'ai encore toute ma collection. Mais si j'ai tellement eu besoin d'eux, en fait, c'est qu'il y a eu, et il y a encore, il me semble, trop peu de recherches. Et Céline, tu parlais ce matin du manque de recherche indépendante. On parlait à l'instant des liens d'intérêt, là, entre par exemple, les géologues et l'ANDRA ou CEA, etc. Et donc, on a un vrai on a un problème de ce point de vue-là. Moi, je pense qu'il y a un problème démocratique. Il n'y a pas assez de journalisme sérieux d'enquête sur le nucléaire. Il n'y a pas assez de recherche vraiment indépendante sur le nucléaire. Et donc ça, ça crée un espace, en fait, pour moi, hyper important pour de l'expertise type Global Chance, mais je dirais aussi Negawatt, tout le travail que fait aussi Yves Marignac, qui est maintenant à Negawatt. Enfin, pardon, il y a d'autres personnes, mais cet espace d'expertise, en fait, qui peut être sous-considéré par certains en raison de... parce qu'on n'est pas dans l'académie, on n'est pas dans le savoir académique, mais en fait, dans le moment où on est dans notre société et sur cette question du nucléaire, il est fondamental. Et donc, la question de l'enjeu du renouvellement de l'expertise de Global Chance, de la transmission de Global Chance d'autres générations, de nouvelles générations d'expertes et d'experts, ce qui a tout à fait commencé. Mais moi, ça me paraît fondamental que ça se développe parce que, justement, on a, il n'y a pas d'autres endroits où est produit cette analyse qui est à la fois si informée, si sérieuse, et en même temps avec cette liberté de regard.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, et maintenant, nous allons passer... Mais peut-être, vous voulez vous lever, peut-être ? À Laurence Tubiana, présenter rapidement, parce que... et aujourd'hui, vous êtes présidente et directrice exécutive de la Fondation européenne pour le climat et professeure à Sciences Po Paris. Et je rappelle que vous avez été l'ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique pour la COP21 et que, de ce fait, vous étiez une des principales architectes de l'accord de Paris. Alors peut-être vous allez aussi, vous, également commencer par une ou des anecdotes sur votre rencontre ou des expériences avec Benjamin.
Avec plaisir et merci pour l'invitation. J'ai rencontré Benjamin et Bernard, et pardon, mais je ne peux pas vraiment vous séparer. Hein. Je venais de rentrer au cabinet du Premier ministre, de Lionel Jospin, et à la fois mon parcours de recherche, puisque j'étais à l'INRA pendant beaucoup d'années, et puis dans mon activité d'ONG, notamment la création de Solagral, qui cherchait à produire une expertise indépendante, notamment pour les ONG, un peu comme beaucoup d'institutions anglo-saxonnes ont déjà fait l'expérience, c'est-à-dire avoir besoin d'une expertise solide pour pouvoir rentrer dans le débat public de façon efficace, bon, Oxfam étant un des beaux exemples. Je suis arrivée à Matignon plutôt avec cette compétence-là sur les questions internationales d'un côté, parce que c'est mon domaine, mais aussi sur les questions de biodiversité, de forêt, etc., et d'OGM d'ailleurs, comme ça qu'on a travaillé ensemble avec Marie-Angèle. Et donc, le nucléaire, c'était vraiment très loin, avec toutes les raisons que Jade a expliquées. Et alors, j'ai pris plus... des différentes responsabilités au sein de ce cabinet. Et j'ai eu en charge, comme n'importe quelle fonction de ce cabinet, en liaison évidemment avec les questions d'environnement, de travailler sur les autorisations évidemment de rejet pour la Hague et sur la politique du nucléaire. Et évidemment, je n'y connaissais rien. Et donc, mon premier contact, ça a été exactement comme Jeanne, la leçon 101, c'est quoi le nucléaire ? Et j'ai retenu la formule célèbre de Bernard. En fait, c'est quand même assez rudimentaire comme technologie. C'est une bouilloire pour chauffer de l'eau, que j'ai utilisée d'ailleurs avec, de façon assez mi-innocente, mi-amusée, avec les représentants du ministère de l'Industrie qui évidemment venaient dans mon bureau régulièrement, ou Madame Lauvergeon qui était à ce moment-là en tête de cette entreprise. Enfin. Et donc, j'ai commencé à comprendre... ce qui était en jeu et en quoi cette couche technique très compliquée permettait d'évacuer complètement le débat et montrer qu'il n'y avait de toute façon pas de solution. Un, parce qu'on était embarqué dedans, donc on ne pouvait pas en sortir. Qu'il y avait ce problème énorme de la dette d'EDF qui était même déjà en 1997 déjà... bien considérable, et qu'il n'y avait en fait que la solution de la fuite en avant qui était possible. Donc première chose, formation par les deux, mais nucléaire d'abord Bernard, puis ensuite Benjamin qui m'explique, bon, l'énergie, ce n'était pas mon domaine non plus, c'est une règle de 3. Il faut que tu fasses tout le temps des règles de 3, parce que les ordres de grandeur, c'est ça le problème. Le reste, c'est du cirque. Donc aussi, bon, période intense de formation, période aussi incroyable de faire rencontrer des gens et de sentir ce souci de formation rigoureuse dont tout le monde a parlé depuis ce matin, qui a produit des générations de personnes avec qui j'ai travaillé, ou que je connais de loin, comme Hélène Cassin, que je ne connais pas vraiment, mais dont j'ai entendu parler, comme Karine Gavant, qui est là et qui m'a rejoint à la Fondation et qui était et qui a fait de longs travaux à Greenpeace, comme Michel Colombier, avec qui, évidemment, j'ai travaillé et qui viendra cet après-midi. Plein de gens qui ont été formés à cette méthode. On réfléchit, on fait des ordres de grandeur et on ne s'embarque pas dans des discussions formatées déjà. Et ça, c'est vraiment ce que vous avez fait. Bernard continue à faire. Et la deuxième chose, c'est l'autorité morale, scientifique. Anecdote, alors, j'étais à Matignon, donc il y avait, à différents, j'ai changé de bureau, mais il y avait un petit square à côté d'un des bureaux que j'ai occupé. Et là, régulièrement, Benjamin, qui n'avait pas spécialement envie d'être dans le bureau, on allait dans ce petit square, on s'asseyait sur le banc et il m'engueulait, comme Jeanne. Alors, tu n'as pas fait ça. Alors quoi ? Alors la grande engueulade, et que j'ai fini par essayer de pousser comme j'ai pu, hein, c'était sur cette question du méthane, sur lequel très longtemps, enfin avant tout le monde, hein, vous avez essayé de dire mais c'est de la folie, toujours les ordres de grandeur, quand même la première chose qu'on devrait faire, parce que c'est pas cher, c'est facile et c'est un vrai scandale que ça soit pas fait, c'est cette question des fuites de méthane. Et donc, j'étais déjà très impliquée dans les négociations sur le climat depuis Kyoto. J'avais pris les responsabilités de diriger les délégations françaises parce qu'on n'avait pas d'experts techniques là-dedans. Donc, il n'y avait que des gens, des diplomates qui comprenaient, mais vraiment rien. À tel point que ma première direction d'équipe, j'arrive à Kyoto avec d'ailleurs des compagnons de route, hein, comme Michel Colombier, et l'ambassadeur qui était là, qui était censé être le chef de la délégation, même si on partageait le rôle, je lui demande donc qui sont les experts. Il y avait 350 experts avec la délégation américaine, et je lui demande, et nous, où sont-ils ? Et il me dit cette phrase extraordinaire, eh ben c'est nous. Et après ça, il a filé voir tous les musées de Kyoto, qui sont évidemment très beaux. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait eu, à ce moment-là, une contribution décisive. D'où ma mobilisation pour qu'on ait un service diplomatique décent pour s'occuper des négociations climat, sur lequel j'ai évidemment passé plus de temps et que je continue à passer plus de temps. Et donc, c'était très intéressant de voir comment... Alors que j'étais très carbone, comme tous les gens qui s'occupent du climat, carbone, c'est ça le problème, on traduit tout en tonnes de carbone, on essaye de chasser le carbone là où on peut, avec des scénarios, ça c'est vrai, c'était tout à fait juste, c'était avec cette optique de scénario, et d'ailleurs, en me faisant rencontrer Michel Colombier, qui m'a beaucoup aussi formée, et on a créé l'IDRI ensemble, comme j'espère il pourra en parler cet après-midi, on l'a fondé sur le changement climatique. On est dans le monde des scénarios tout le temps. Et donc avec les degrés d'incertitude. Mais du coup, à tous les deux, leur question de dire c'est très bien le CO2, ça va être quand même très compliqué de décarboner l'énergie fossile, de tout faire, là, le secteur automobile, c'est très bien. Là, mais quand même sur méthane, merde, quoi, qu'est-ce que vous foutez ? En gros, c'était ça. Alors, bon, il y a eu différentes étapes. Ça avance, hein, tard, trop tard sans doute, mais quand même, je me suis battue, mais trop tôt, pour qu'on ait un vrai protocole sur le méthane, mais je pense que ça va arriver, parce que, effectivement, depuis 2004, soi-disant, les sociétés pétrolières ont promis de ne plus faire de flaring en 2004. Bon, maintenant, ils nous ont promis de ne plus faire en 2030. Bon, il y a eu un trou là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un trou. Bon, ils ont oublié le truc. C'est pas possible. Et du coup, je trouve que cette rigueur de mais attaquons-nous pour les choses sur lesquelles on sait faire. C'est pas cher. Et depuis, quand même, sous l'impulsion, parce que ça a été quand même, s'y intéresser au plan international, il y a maintenant des satellites qui mesurent les émissions, les fuites de méthane dans le monde, que les Nations Unies gèrent, dont les données sont maintenant publiques pour tout le monde. Et ça, vraiment, c'est quand même votre énergie. Parce que quand je me suis rappelée que j'ai porté cette question du méthane dans les milieux américains, bon, c'était quelque chose qu'ils ont compris, parce que c'était plus simple, c'était un peu comme Montréal, le protocole de Montréal. Et c'est vraiment ce raisonnement, quand même, voilà, les chiffres sont là, ça nous fait gagner tant de temps sur les réductions d'émissions de carbone, parce que c'est plus long à faire, et donc pourquoi on ne le fait pas? Et c'est vrai qu'il y avait une communauté autour du carbone, qui s'auto-congratulait de travailler que sur le carbone, et vous entriez, vous ouvriez une autre porte en disant, mais là, vous ne regardez pas ce qu'on pourrait faire déjà tout de suite. Et maintenant, quand j'entends tout le monde dire, de John Kerry à d'autres, mais enfin, quand même, le méthane, c'est la solution pour aller plus vite, je dis, bon, ils ont mis longtemps, hein. Mais c'est comme ça, enfin, c'est comme ça que les choses progressent, parce qu'il y a des gens qui redécouvre une question, la rechange, la reforme, la reformate. Et ça, c'était... et je me suis fait beaucoup, beaucoup engueuler hein, sur ce méthane. À des moments, je fuyais, d'ailleurs. Je disais, bon, là, je ne vais pas les voir parce que je n'ai rien à dire, je n'ai rien à apporter. Donc ça, c'était aussi les belles anecdotes. Mais il y en a tellement, d'avoir formé tellement de gens qui ont de l'importance, qui ont de l'influence. Bon, pour moi, ça a été quand même les gens avec qui j'ai continué à travailler. Et grâce à vous. Et puis quand Bernard... Alors, autorité morale, quand Bernard dit de faire quelque chose, en général, on fait. Hein, on ne discute pas. Donc, c'est pour ça qu'on est là, hein, ce matin. Vous n'avez pas eu d'hésitation. Il pleut, c'est Aubervilliers, c'est un samedi matin. Mais ça ne se discute pas. Voilà.
Alors, peut-être... Attendez, c'est pas encore... Pour conclure, mais vous avez quand même quelques minutes sur cette table ronde, un peu ouvrir le champ vers le futur et aussi vers l'Europe, puisque finalement on est en Europe et vous êtes la présidente de la Fondation pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Union européenne et comment est-ce que s'organise un petit peu la tectonique des plaques sur l'action climatique maintenant? Est-ce qu'il y a vraiment des changements? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose?
Bah, c'est toujours, il y a toujours des hauts et des bas, hein, depuis 35-40 ans que les gens se battent sur tous ces sujets. Alors là, on est dans un bas, hein, c'est sûr que c'est pas le... Dans deux semaines, on va à Dubaï, au bord de la mer, avec des buildings où ils climatisent la rue et ils vont reconstruire une nouvelle piste de ski parce que l'autre était trop petite. Et on va là-bas pour discuter de réduire les émissions mondiales de 45% d'ici 2030. Bon, ça va être dur. Donc on est dans un moment et où... Alors c'est marrant quand on disait climatiser le nucléaire. C'est vrai que ça a été ça. Hein, je me souviens des premières réunions des conférences de parties. L'industrie nucléaire était là en disant « nous, c'est la solution ». Le truc encore pire, si c'était possible, c'est que maintenant les pétroliers nous disent « c'est nous la solution ». Donc on ne peut pas dire que ça s'est amélioré. Hein, mais en même temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de faits depuis, y compris même depuis 2015. Beaucoup de choses. Hein, l'électrification du système, quand même, elle a énormément avancé. Regardez, évidemment, le secteur automobile, c'est évident. C'est évident sur l'incroyable explosion des énergies renouvelables. C'est quand même, on regarde les statistiques d'investissement cette année, c'est bien supérieur aux investissements dans les énergies fossiles et dans le nucléaire. Bon, nucléaire, il n'y a pas beaucoup d'investissements, il faut dire, à part nous, personne n'a tellement envie de mettre de l'argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une grande bataille européenne sur est-ce que quand même on ne pourrait pas avoir des aides d'État pour financer du nucléaire, puisque... c'est le grand choix français, mais apparemment, on n'a pas les sous pour le faire. Donc, et je trouve ce qui est important, c'est que, bon, à la fois, des gouvernements qui, aujourd'hui, ont peur, parce qu'il y a une remise en question des politiques climatiques en général, parce qu'elles ont été mal pensées, on le sait, elles ont été régressives pour une partie, parce qu'on a eu des approches trop limitées, parce qu'au fond, c'est plutôt les classes moyennes ou supérieurs qui ont bénéficié de ces politiques climat, je pense à toute la politique de rénovation des bâtiments, plutôt que les gens qui avaient vraiment besoin de l'argent. Bon, mais évidemment, vous connaissez tout ça. Donc on est dans une période où à la fois, malgré le Covid, malgré l'invasion de l'Ukraine, on a eu une affirmation de ces politiques climatiques au travers du pacte vert. Et maintenant, c'est vrai que tout le monde est en train de dire, enfin tout le monde, certains gouvernements, le gouvernement allemand, le gouvernement français, évidemment, il faut faire une pause. Bon, mais c'est les élections dans moins de 6 mois maintenant, 7 mois. C'est probablement normal que chacun se regarde en se disant « Oula, ça va être dur, regardez les sondages, la droite augmente, le centre et les verts diminuent, donc il faut être prudent. » Mais ce qui montre que on ne peut pas compter sur les gouvernements et l'engagement des gouvernements seuls pour que ça marche. Et c'est vrai que c'est pour ça que la mobilisation de la société civile, les expertises, les médias, la société, c'est la seule garantie pour que les gens soient sérieux dans les gouvernements. Et sinon, ça craque toujours. C'est vrai, alors on dit 2030, on ne va plus avoir de voitures à essence. Bon, finalement, 2035, et puis peut-être que là, on pourrait faire une pause. C'est toujours comme ça. Il y a toujours cette évaluation de la votabilité des mesures, de la manière dont on va gagner ou perdre des élections, dont on va gagner ou perdre les lobbies qui vous entourent. Quand j'étais à Matignon, et quand il y a un moment où on ne sort plus de son bureau, parce qu'on ne peut pas, et je disais à Bernard, les seuls gens qu'on voit, c'est les gens qui viennent vous demander quelque chose ou qui viennent vous imposer quelque chose. Et du coup, il faut aussi se percevoir l'espèce d'aquarium dans lequel sont enfermés les gouvernements, avec les gens organisés qui viennent évidemment arracher pas à pas ou avec des gros... c'est pas un secret que Patrick Pouyanné, il est chez Macron toutes les semaines. Bon, c'est pas un secret. Mais ça a une conclusion concrète. Mais pour finir, donc on est dans un creux, mais il y a eu quand même une énorme résilience de la politique climatique européenne qui se heurte aujourd'hui à des obstacles faramineux qui sont devant la crainte d'ailleurs du secteur pétrolier de perdre, parce qu'il y a ces investissements qui ne sont plus dans le même ordre de grandeur, de dire c'est nous la solution. Et la solution c'est on va continuer et on va magiquement faire disparaître les émissions de gaz à effet de serre, du pétrole et du gaz. Après, je voudrais, parce que j'ai oublié quelque chose qui était très important et que Bernard et Benjamin m'ont aidé à faire, même si on n'a pas pu le finaliser avec le gouvernement de Jospin, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Et si vous n'aviez pas été là, alors, premier épisode, on commence grâce à vous à discuter, il faut qu'il y ait une autorité indépendante sur la sûreté. Et là, je reçois le ministère de l'Industrie et M. Lacoste, qui devait être le directeur de la Sûreté à l'époque, qui était au ministère de l'Industrie, me dire « Mais tout est sous contrôle, tout va bien, il n'y a pas de problème, le nucléaire français, mais alors c'est sûr de sûr. » Il y a eu un petit moment au Fukushima, après, ils ont été un peu inquiets, mais à ce moment-là, c'était bon. Et puis, on est quand même dans un gouvernement de gauche, il y a les Verts, c'est bien, il faut pousser, et ça devient un bel objet politique, il nous faut une autorité de sûreté nucléaire. Bon, on perd les élections en 2002. Mais le projet était bien écrit, déjà. Peu de modifications, pour une raison qu'il faudra un jour que je comprenne pourquoi ça ne s'est pas passé à la trappe. Et je vois, et je m'en souviendrai toujours, ce monsieur Lacoste, qui pensait que tout était bien, qu'il n'avait pas besoin de regarder, qu'il n'avait pas besoin d'ouvrir les dossiers, parce qu'il est devenu responsable, grâce à cette conception d'une autorité indépendante, commençait à avoir peur. Et à dire, bon là, quand même, là... Les soudures, c'est pas trop bien. Et a commencé à devenir un problème pour EDF et tout le secteur industriel, parce que pour la première fois, il y avait quelqu'un qui était responsable s'il y avait un accident. Et ça, vraiment, Bernard et Benjamin, c'est votre boulot. Et je pense que du point de vue de la sécurité des Français, si on n'avait pas ça, et on voit un peu les menaces avec l'Ineris, etc., qui se profilent, vous avez, à part le méthane qui n'est pas fini, là, comme boulot, vous avez fait quelque chose qui change tout du point de vue de la création d'une autorité indépendante qui, parce qu'elle existe, ne permet pas de faire comme avant, c'est-à-dire de mettre tous les dossiers sous le tapis. Donc voilà. Donc c'est merci. Merci.
Merci et je pense que j'invite les...